Fragment de l'Aure. Aujourd'hui débute la première d'une série de 5 émissions de Jérôme Peignot et Michael Cohen consacrée aux écrits de l'Aure. Extrait lu par Florence Delay. Ces jours-ci paraît aux éditions Jean-Jacques Pauvert une troisième édition des Écrits de l'Aure. Alors, pourriez-vous, Jérôme Peignot, nous rappeler les étapes de ce qu'on a pu appeler l'affaire l'Aure, nous raconter l'aventure de la publication de ces textes qui, du vivant de l'Aure, n'avaient pas été publiés, à l'exception, je crois, de deux petites plaquettes qui avait été édité à une cinquantaine d'exemplaires par Georges Bataille et Michel Leiris. Donc, une partie importante de ces textes était restée inédite de son vivant, mais quant au désir de l'Aure de voir ces textes publiés, je crois qu'il ne fait pas de doute. Je rappellerai ici une phrase de Bataille et Leiris. Avant de mourir, elle a marqué formellement le désir que son témoignage ne reste pas incommuniqué, affirmant qu'il ne faut pas s'isoler, rien n'ayant de sens que ce qui existe pour d'autres êtres. Mais la misère inhérente à tout ce qui est littérature lui faisait horreur, car elle avait le plus grand souci qui puisse se concevoir de ne pas livrer ce qui lui apparaissait déchirant à ceux qui ne peuvent être déchirés. Donc, voilà pour le désir même de l'Aure. Maintenant, pourriez-vous nous dire ce qui s'est passé? Donc, elle a remis ses manuscrits à Bataille depuis la mort de l'Aure en ce qui concerne son œuvre.
Alors, il n'y a pas eu 3, mais 4 éditions. La première édition, faite un an après la mort de l'Aure en 1938, première édition faite sous le manteau, comme on dit, par Bataille et Leiris. Deuxième édition ensuite, que j'ai faite chez Pauvert en 1971. Troisième édition que j'ai faite avec Jean-Pierre Faye, une édition qu'on a appelée édition pirate, sous le sigle de Change Errant, là, il y a quelques mois. Et enfin, la quatrième et exhaustive à ce jour, parce que je sais qu'il reste encore des documents que certains détiennent et ne veulent pas donner. Dernière édition, donc, chez Pauvert. Alors, je précise d'abord, peut-être, que, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, que l'Aure est née en 1904 et qu'elle est morte en 1938, laissant une œuvre que de son vivant personne n'avait publiée et même que personne ne connaissait. Bataille, dans un texte que nous aurons sûrement l'occasion de lire, raconte comment, l'Aure étant sur son lit d'agonie, il a découvert l'essentiel de ses textes et en particulier le recueil qui s'est appelé Le Sacré, et qui a bouleversé Bataille, tant et si bien même que on a souvent dit, puisque l'Aure a vécu avec Bataille, que son œuvre avait été inspirée par Bataille. Je prétends le contraire. Je prétends que c'est elle l'initiatrice, que c'est elle qui a influencé Bataille. Bon. Alors, vous dire maintenant quelle a été la vie de l'Aure, eh bien, on peut la résumer en deux ou trois traits. Encore que, cependant, toute son enfance, elle en a fait elle-même le récit dans l'histoire d'une petite fille. Quand même, je vais vous préciser auparavant de quoi est composé ce livre. Il est composé, donc, d'abord des écrits de Laure, composé essentiellement de l'histoire d'une petite fille, et deuxièmement d'un recueil qui s'appelle Le Sacré. Ensuite, j'ai retrouvé, j'ai réuni là, la correspondance de Laure et de Bataille, puis une imposante correspondance entre Laure et ma mère. J'ai oublié de mentionner que Laure est ma tante, c'est-à-dire la sœur de mon père, et qu'elles sont véritablement et Colette Peignot. C'est un projet à quoi j'ai beaucoup travaillé, puisque c'est Bataille lui-même qui m'a enjoint d'avoir à travailler à la publication de cette œuvre. Mais j'en reviens donc au contenu du livre. Correspondance imposante de Laure à ma mère, avec laquelle elle avait des relations très amicales, très tendres. Et... Ensuite, figure là un texte de Marcel Moret, qui est le récit de la mort de Laure. Et enfin, depuis l'édition 71 que j'avais fait chez Pauvert, j'ai retrouvé et collecté là tous les textes de Bataille sur Laure, qui sont pour l'essentiel contenus dans une préface ou dans des commentaires aux coupables, et donc à l'expérience intérieure. Cela dit, la présence de Laure court partout dans les textes de Bataille publiés dans l'édition actuelle des œuvres complètes chez Gallimard, et je n'ai retenu là que les principaux passages qui la concernent. Alors, parlons maintenant brièvement de Laure elle-même et de sa vie. Mm-hmm. Elle est née dans une atmosphère et dans un milieu extrêmement conventionnel et bourgeois, d'une famille où il n'y avait plus d'hommes. Mon grand-père, donc le père de Laure, et mes trois grands-oncles sont morts à la guerre de 14 dans un espace de 3 semaines. Ça a frappé les esprits. Il y a même une rue à Paris qui s'appelle la rue des quatre frères Peignot. Mais mon grand-père et mes trois grands-oncles n'ont rien fait d'extraordinaire. Ils n'ont fait que mourir à la guerre de 14. Alors, rester seul avec sa mère et puis ses deux sœurs, ces quatre femmes ont vécu dans une atmosphère comme ça, très étouffante. Ma grand-mère se posant comme un martyr qui avait donné à la nation son mari et ses trois beaux-frères, et puis surtout aussi une atmosphère confite en dévotion, un prêtre qui s'immisce dans la famille et qui y joue un rôle sur lequel nous aurons l'occasion de revenir, très important. Cette famille, ce prêtre véhiculant toute une forme de pensée, toute une conception religieuse, patriotique, contre laquelle, finalement, peu à peu, découvrant tout ce que tout cela avait de faux, de dérisoire, et même de monstrueusement scandaleux, Laure dénonce peu à peu, et on la sent finalement sortir, émerger de cette chrysalide que constitue ce milieu abominable. Et elle gagne sur elle-même la force de s'opposer finalement à sa famille, à son milieu, à ses idées, à ce pouvoir religieux que ma grand-mère fait peser sur... Et peu à peu, elle émerge de cette... Bon, elle est de complexion fragile. Et enfin, parvenue à l'âge de 22 ou 23 ans, elle commence à s'apercevoir ce qui se passe à l'extérieur. Or, bien, il y a eu 1917, il y a eu la révolution russe, elle apprend les langues orientales et le russe aux langues orientales, et elle décide d'aller en Union soviétique, où elle veut partager la vie des plus humbles, moudjiks, comme elle le dit. Et elle vit donc peu de temps, un an à peine, en Union soviétique, où elle tombe très gravement malade de la tuberculose, et elle revient. Elle a fait connaissance en Union soviétique de certains écrivains, dont Boris Pignac, et puis elle revient à Paris, où elle entre dans le milieu surréaliste, elle fait la connaissance d'Aragon, de Breton, de Picasso. Elle vit dans une atmosphère à la fois intellectuelle, mais politique aussi, car il y a une intervention continuelle dans tous ses écrits, une interaction, une interrelation entre, finalement, la vie privée et la vie publique, entre les choix politiques et les choix dans la vie quotidienne et dans la vie amoureuse. Il n'y a pas d'un côté ces orientations-là, et puis de l'autre part, une vie comme ça, rangée, tranquille, non. Tout ça se tient. Et elle fait la connaissance ensuite de Boris Souvarine, avec lequel elle vivra un certain temps. Et puis elle entre dans le mouvement du collège de sociologie, du groupe Acéphale, de Bataille, et donc elle fait la connaissance de Bataille. Elle vivra avec Bataille pendant 4 ans, et c'est chez Bataille qu'elle meurt en 1938, donc après une vie brève. Elle est morte à 35 ans, en 1938. Et c'est à ce moment qu'on découvre, que Bataille découvre chez lui, à Saint-Germain-en-Laye, où il vivait avec Laure, qu'il découvre ces textes admirables. Alors, moi, je connaissais leur existence, mais je n'avais même pas pu avoir accès aux documents. Et puis, il se trouve que, ayant fait la connaissance de Bataille, et puis ensuite celle de Léris, un jour, Léris, qui était devenu à la mort de Bataille l'exécuteur testamentaire de Bataille, pourquoi Bataille ne nous a pas donné? Parce que quand j'ai fait sa connaissance, c'était les deux dernières années, il était malade, il vivait à Orléans, et alors je l'ai vu chaque fois qu'il venait à Paris, mais nous avions promis de nous voir et de travailler à cela et à bien autre chose, mais bon, les choses se sont arrangées autrement. Et il a fallu donc que, à la faveur d'une rencontre avec Léris, Léris me donne les manuscrits qu'il avait en sa possession pour que, en 1969, je fasse enfin connaissance de l'œuvre de ma tante. Bataille, Léris, beaucoup de gens en avaient parlé, connaissaient son existence, Patrick Valberg, Camus, Aragon, mais je ne pouvais rien faire, je n'avais pas les éléments. Alors c'est à ce moment que je me suis mis au travail et que j'ai proposé à plusieurs éditeurs parisiens, qui l'ont refusé d'ailleurs, de publier son œuvre parce que je n'en détenais pas les droits juridiques. Je ne suis pas l'héritier juridique de ma tante. Et parce que j'ai pensé que c'était de mon devoir, je me suis efforcé de publier cette œuvre. J'ai eu beaucoup de mal. Et puis, je suis arrivé à publier enfin cette édition et cette œuvre, encore incomplète, en 1971. Et puis, en 1971, une fois que le livre a été imprimé, finalement, il est parti très vite. Il y a eu beaucoup d'articles, beaucoup de gens ont parlé. Les articles, numéro de la quinzaine, a été consacré à l'or, par exemple, des articles dans le monde, il y a eu des articles partout, et très vite, le livre s'est épuisé. Alors, entre-temps, il se trouve que grâce à mon ami Jean-Pierre Faye, avec lequel j'avais des relations amicales et suivies, et qui connaissait également Léris, il se trouve que j'ai découvert de nouveaux textes. Depuis l'édition de 1971, j'ai découvert de nouveaux textes. Il y avait un certain, hiatus, désordre, dans les papiers de Bataille, et j'ai retrouvé de nouveaux textes. Et puis ensuite, il y a eu toute cette correspondance avec ma mère, que j'ai également découverte, et que ma mère m'a confiée, m'a donnée. Et puis il y a eu tous les textes de Bataille, et j'ai eu l'idée, à la fois d'une réédition, mais d'une réédition augmentée, ce qui fait que l'édition d'aujourd'hui est bien augmentée, supérieure en volume et en intérêt. Alors, dans l'édition Pauvert actuelle, simplement les noms propres ont disparu. Mm-hmm. Les ayants droit ayant demandé que ces noms propres disparaissent. Mm-hmm. Ce à quoi j'ai consenti, parce que je ne voulais pas moi-même... Après toute cette affaire qui dure depuis 15 ans et qui voit son aboutissement aujourd'hui, pour la faire de nos propres entraver enfin la publication de ses écrits.
J'étais sans amis. Tous étaient réprouvés par ma mère comme trop fortunés ou pas assez pieux. Pauvre, cette femme se fut trouvée tout naturellement portée à recourir aux voisins ou à leur prêter assistance, à laisser ses enfants jouer avec d'autres sur le trottoir, à parler elle-même aux commerçants, à connaître les histoires du quartier. Mais sa situation lui permettait de s'enfermer dans une méfiance totale de tout ce qui n'était pas la famille et dans une ignorance complète de tout ce qui au monde pouvait être gai, actif, remuant, vivant, productif ou même simplement humain. Avoir des relations ou recevoir l'a jeté dans un état de panique solennelle dont nous subissions le contre-coup. Mon frère seul nous tirait du malaise par une désinvolture qui faisait éclater en trombe ces fous rires sacrilèges qu'il faut contenir au salon ou à l'église. La maison avait toujours un aspect morne et inchangé. L'arrivée du courrier me passionnait d'avance à cause de très rares lettres écrites d'Afrique, d'Amérique ou de Chine par un oncle lointain. Bien qu'il n'y eût jamais sur le plateau de bronze décoré que des factures, des faire-part et l'écho de Paris, j'attendais chaque jour ce courrier fait d'enveloppes épaisses, de timbres extraordinaires et d'une écriture bizarre. Malgré ses domestiques, ma mère restait constamment préoccupée du ménage, préoccupée jusqu'à l'angoisse par la poussière, la naphtaline et l'encaustique. Il ne se passait pas de jour sans qu'une tâche nouvelle ne l'absorbât et ne mît en l'air choses et gens. Cela s'appelait ranger, et ce n'était jamais fini. Tout le monde devait être sur pied et prendre une part active au bouleversement général. Enfants et domestiques, visages crispés à l'image de l'autre, allaient et venaient, montaient et descendaient, rien n'était épargné. Seule, la chambre de débarras demeurait immuable dans son air confiné et sa lumière de vitrail. Je m'y réfugiais, et là, à cheval sur une vieille malle de Moleskine ou accroupi sur un petit banc à rempailler, je me racontais sans fin des histoires, et surtout celles d'avant ma naissance, du temps où j'habitais le ciel, ou bien je contemplais avec ferveur un doux Jésus blanc et un Joseph blond, image bleue, rose, dorée, étoilée, empaquetée dans la soie, nouée de faveur. Ou bien je lavais ma poupée et partais à la recherche de mon propre corps que l'on m'ordonnait d'ignorer. Curiosité de l'enfant vers son ventre, au moment même où il sait que Dieu voit partout et le suit dans ce grenier. Curiosité et puis terreur. La vie eut vite fait d'osciller entre ces deux pôles, l'un sacré, vénéré, qu'il faut exhiber, les enlisements de ma mère après ses communions, l'autre, sale, honteux, qu'il ne faut pas nommer. Tous deux combien plus mystérieux, plus attirants, plus intenses que la vie morne et inchangée. Ainsi, à l'âge oscillé entre l'infâme et le sublime, au cours de longues années dont la vraie vie serait toujours absente. J'attendais le défilé. J'ai vu les étendards et les drapeaux de petits garçons débiles et de vieillards canuts, la badine dans la main. J'ai vu les oriflammes et les oripeaux des prêtres en sueur, les salles vertes et puantes. J'ai vu les scapulaires et les chapelets crasseux des jeunes filles, les enfants de Marie tremblante. Mon père, j'ai eu de mauvaises pensées. Tous braillés, la laine pourrie. Nous sommes l'espoir de la France. Trois vieilles hochinant de leurs cheveux gras découvraient d'entre leurs moustaches des râteliers, tout pleins d'ostirance, Te voilà sous les espèces du drapeau, sainteté insane. Pourquoi ne pas sourire désabusé ou éclater de rire amusé? Mais non, je reste là, à cracher le sang de mes ancêtres qui te ressemblent. Ne finirai-je pas bientôt de rejeter ce lest pesant? Oui, il n'y a pas si longtemps, la Véronique me souriait, avec son linge suintant le Christ, la Vierge et sa couronne vacillée dans l'encens, ainsi que les gros clous fixés au mur et les traînées de sang. La sainte face pleurait ses larmes d'huile derrière une lampe rouge, seul éclairage de la chapelle de cette douleur. C'était la retraite, l'heure de la méditation. J'avais 7 ans, j'étais à genoux, tremblante. Bras les jambes brisées, je m'efforçais d'inventer des péchés tant les miens me paraissaient insignifiants, peu en rapport avec la gravité des lignes, la sévérité des textes et des invocations. J'inventais. Le prêtre m'accueillit dans une pièce obscure, où je pénétrais épouvantée, et où il me confessa sur ses genoux. On me ramena au fiacre. La maison était loin, entre Sainte-Anne et la Santé, expliquait ma mère au cocher. Et je tremblais longtemps encore dans un capitonnage de feutre humide, redoutant la mort à chaque tournant des rues ruisselantes de pluie où le sabot du cheval glissait et dérapait. Je dus avaler l'hostie moi aussi, honteuse de ne savoir comment m'y prendre et de poser des questions. Surtout ne les fais pas toucher tes dents, avait dit ma mère. Quel affreux débat de langue de bon Dieu en salivait. C'était à tel point où l'on raté que je commençais à douter que ce fût là Dieu. L'idée ne me lâchait plus. Impossible de penser à autre chose, je sanglotais. Voyant mon émotion, le prêtre et les parents se félicitèrent de ma piété extrême. Je laissais dire. Pouvais-je avouer l'horreur de ce qui se passait? N'étais-je pas déjà en état de péché mortel? On parlait de ferveur. Pour la première fois, les sourires béats, les airs supérieurs des grandes personnes me parurent étranges, douteux. Cependant, j'étais fière d'être la seule enfant dont la première communion se passerait, comme le voulait ma mère, sans qu'aucune réjouissance matérielle ne trouble la sainteté de la journée. Et une fois de plus, la sainteté s'en alla loger au grenier. C'était une pièce de débarras pleine de mal et de vieilles ferrailles. La fenêtre, jamais ouverte, était condamnée par un épais rideau laissant filtrer une lumière de vitrail. Je restais là des heures entières, échappant à leur ennui, me plongeant dans le mien à corps perdu.
Se présentaient les manuscrits de l'œuvre?
Ah, alors là, justement, j'ai travaillé près de 2 ans à les déchiffrer. Encore une fois, ce ne sont que des éclats, des fragments. C'est le titre de notre émission. Le reste d'une lettre qu'il m'a envoyée, le courant de toute cette histoire, au moment de la publication de l'édition de 71 chez Pauvert, me disait que, et cette lettre m'a fait plaisir, que justement, ce dont il avait peur, c'était que les écrits de l'or deviennent un écrit littéraire. Et il dit dans une phrase très belle, il parle des écrits de l'or si abruptement hors de toute littérature. Ça n'est pas de la littérature, ça n'est pas une œuvre littéraire. Ce sont des cris, ce sont des éclats.
À dater de ce jour, apparemment calme, imperturbable, je commençais à jeter de grands cris sur des papiers. Ces lignes résument mon inertie. Serais-je jamais capable d'imprimer un trait de volonté dans le réel? Dès que je ne suis plus seul, je ne suis plus moi. Comment faire? Aurais-je toujours cette immense faculté de souffrir des choses sans les changer?
Alors, ce caractère fragmentaire apparaît dans les manuscrits. J'ai retrouvé, par exemple, dans l'histoire d'une petite fille, environ 6 ou 7 versions différentes de cette histoire d'une petite fille. J'ai retrouvé aussi des passages qui, dans l'histoire d'une petite fille, se retrouvent dans le recueil du sacré. C'était un des problèmes, justement, qui a tourmenté, je veux dire, l'or. C'est la façon, la manière de transcrire, n'est-ce pas? Et elle a un rapport à l'écriture qui est très intéressant à analyser, car elle était, elle aussi, parfaitement consciente du danger que représentait l'écriture, du danger que ça devienne un objet littéraire avec tout ce que ça comporte de faux. Et ce qui fait que moi-même, je me suis trouvé pris dans cette situation paradoxale d'avoir à faire un livre avec ce qui sort si violemment de la conception littéraire, avec tout ce que ça suppose, n'est-ce pas? Mais par-delà cet équivoque, j'ai pensé, nous pensions, Nathalie, Iris et moi, que ces textes étaient si beaux que tout de même, il fallait quand même qu'ils prennent l'allure d'un document imprimé qu'on puisse appréhender et connaître, n'est-ce pas? Voilà. Elle avait une écriture extrêmement tourmentée. Il m'a fallu déchiffrer, décrypter ses éclats. Et ça n'a pas été facile, ne serait-ce que matériellement. Parce que elle n'était pas contente de ce qu'elle écrivait. Elle estimait que justement, tout ce qu'elle écrivait n'était que dérisoire, que dérision par rapport. Elle parle à un moment donné du papier qui n'est jamais que de la pâte molle qui colle et sur laquelle on glisse, on ne se rattrape pas sur du papier, disait-elle. Elle parle aussi de ces poètes qui, dans les bistrots, se contentent et font de la littérature, de leurs histoires sentimentales, affectives. Elle avait le plus grand souverain mépris pour la littérature. Pour elle, l'écriture, en fait, je crois qu'on peut résumer en disant que pour elle, l'écriture est un rappel à l'ordre. Je cite ça souvent parce que on écrit avec sa vie, on écrit avec sa sexualité, on écrit avec son engagement dans la vie politique, mais aussi dans ses relations avec les autres. Nous aurons l'occasion de parler de la tauromachie et de la référence à laquelle elle revient tout le temps, continuellement, à l'expérience du torero dans l'arène. Pour elle, la vie se vit comme ça. C'est-à-dire que la mort est là présente dans tout ce que nous faisons. Et c'est cette mort qui donne sa dimension à tout ce qu'on vit d'abord et à tout ce qu'on écrit par la suite, si on peut. Mais l'important, la véritable écriture, c'est l'écriture de la vie.
Et souriante, par un médecin, tourne autour de la fosse aux fous du jardin de l'enfance. Pauvres êtres falots, et leur douleur, qui se rend pour s'être trop cabré, et leur douleur vaincue, impuissante, écrasée, idiote. Écoutez-les. A, B, C, D, je ne sais plus parler. 1, 2, 3, 4, je ne sais plus compter. Que vous importe l'innocent du village ou la folle du quartier? Les rues ne sont-elles pas pleines de consciences achetées, d'échines brisées, d'autres êtres encore, voués à une mort plus proche, ou en vie meilleure, seront échoués dans les foires, dans les ports, dans les squares, sous les ponts. Les épaves vivantes, venues de tous les naufrages, misère ou désespoir, se retrouvent étonnées sur les bords friables des quais, étonnées de se voir face à face, dans l'âme, Et puisque les regards se croisent, on échange ces mots passe-partout, sans aucun sens et lourd de signification. Seuls ceux qui reviennent de loin s'entendent ainsi parler de la pluie et du beau temps. Et il semble que la terre, répondant au son des voix, devienne plus ferme sous les pas. L'eau du fleuve roule ses eaux grasses, charrie ses lourdes puanteurs. Au-dessus des ponts la ville, au-delà de la ville les champs. Et dans la ville et dans les champs, une mer mouvante de regards humains. Pas un qui ne cache un secret, une histoire qui ne soit une réponse, un appel, une explication. Regards si clairs et très purs, avec leur fond trouble de taches et de filets, algues et détritus humains. Regards exorbités, glauques et chassieux, regards à faune, et d'autres illuminés, regards qui savent haïr et mépriser, regards aimants et confiants, regards qui révèlent un but, une volonté, regards que le désir voile dans le sang. J'entrevis tous ces regards, à travers celui qui, insistant et perdu dans une pâleur d'affamé, semble demander compte à toute impuissance, à toute défaite humaine, autre que la sienne.
Ce que représente pour vous Jérôme Peignot, Laure, Colette Peignot, celle que vous avez appelée dans la préface à ses écrits ma mère diagonale, ma question est double et je vais l'éclairer de deux extraits de votre préface. Le premier, c'est celui-ci. Ce n'est pas la première fois que j'éprouve cette sensation de ne pas être le fils de ma mère et de mon père, mais bien plutôt de ma tante. Côté paternel et de mon oncle côté maternel. Que je sois le produit de cette tout ensemble légère, totale et parfaite translation, je le sens aujourd'hui avec une grande précision. À elle seule, elle rend compte de cette conscience très particulière que j'ai de vivre. Les vertus éclairantes de ce regard oblique sont proprement vertigineuses, dans un léger cafouillage chromosomique dont je vis les effets dans le moindre détail. Tout à coup, je me découvre comme par le biais d'une coupe transversale. Le deuxième texte, un peu plus loin dans ma mère diagonale, mais en lisant ses écrits, je retrouvais bien d'autres choses encore. Entre autres, la confirmation de ce que je sentais confusément, à savoir que Laure et moi avions quelque chose de commun dans notre manière de nous exprimer. Cela me frappa même au point que j'en vins à me dire que, pour l'essentiel, Laure avait écrit mon autobiographie. Et vous parlez plus loin d'une parenté de sang et d'encre. Laure était votre tante, Laure était écrivain, vous l'êtes aussi. Tous deux, vous êtes des écrivains qui écrivaient des autobiographies. Alors, est-ce que vous pouvez parler de cette parenté de sang et d'encre?
Oui, ben justement, Laure n'est pas un maître à penser. Laure n'est pas un professeur d'écriture, mais elle est avant tout un maître à vivre et à être. Et j'essaye péniblement de me mettre au diapason de son exigence ou, disons, de sa transparence. C'est quelqu'un qui a cherché toute sa vie à être en accord avec elle-même. En supprimant tout ce qu'il pouvait y avoir de compromission, de bavure avec soi. Et cette exigence a été si forte et si éclatante que finalement elle est morte. Je prétends qu'elle est morte de son exigence plus encore que de compunction ou de phtisie. Et alors, c'est quelqu'un qui donc est cela pour moi, mais en même temps, j'ai ce lien, comment dire, je ne sais pas comment l'expliquer justement, ce lien de sang avec elle. Je reconnais en moi les mêmes conflits, la même fragilité, à défaut de reconnaître la même énergie. Et alors, elle est pour moi cette exigence suprême, n'est-ce pas? Cette exigence suprême. Et alors, vous disiez même sang et même encre. Mais oui, j'en viens toujours là, c'est parce qu'on écrit avec sa vie, avec son sang, et pas avec de l'encre sur du papier. Ça se termine chez un éditeur, on en fait... Mais cela, c'est justement ce qu'elle haïssait, ce qu'elle dénonçait. Et en même temps, elle écrivait. Elle écrivait. Et en même temps, il y avait cette distance entre ce qu'elle voulait dire et ce qu'elle disait en fin de compte. Alors, c'est cette situation équivoque et paradoxale dans laquelle elle s'est trouvée, dans laquelle moi je me retrouve, dans son sillage, entre le besoin de communiquer et la peur de tout ce que cette communication implique en fait de faux sens, dès le départ, avant même qu'une ligne ait été écrite. Alors, ce que je voudrais, ce que je souhaite et ce que toute ma vie je cherche à faire, c'est de mettre l'écriture de ma vie dans le courant de la sienne. Et au fond, les problèmes devant lesquels je me suis trouvé, ne serait-ce que par exemple en voulant publier son œuvre, sont les mêmes que celles en présence desquelles elle s'est trouvée elle-même au moment où elle écrivait. Et finalement, il y a une espèce de doublon à l'envers. Je suis elle, avec une génération d'écart et un sexe contraire.
Georges, tu n'as plus qu'une possibilité de m'aider. Ce n'est pas la douceur. Ce n'est pas ton désir de me soigner et que je t'appelle mon ami. C'est ta vérité, la mienne. Georges, comprends-tu? La vie et la mort m'appartiennent. En ce moment, je suis aussi près de l'une que de l'autre. Mon être au monde ne peut plus rien, puisque je ne te trouve plus tout au fond, là où je savais te trouver. Georges, peut-être que je ne t'aime pas. Georges, je sais ce qui s'est passé hier, je le sais. J'ai aimé notre vie. Souvent, je voulais me sauver, partir seul dans la montagne. C'était sauver ma vie, maintenant, je le sais. Dès que j'avais de l'argent dans ma poche, j'y pensais. J'avais horreur de ce rythme fou, de mon travail, de mon ami. Tu osais m'accabler en me parlant de faiblesse. Tu oses encore, toi qui n'as pas la force de passer 2 heures seul. Toi qui as besoin qu'un autre être à tes côtés t'inspire tous tes gestes. Toi qui ne peux pas vouloir ce que tu veux. Je sais. Et il te mènera comme il veut. C'est prouvé. Notre vie, nous deux, j'y crois. Comme tu y croyais encore le premier jour où tu as parlé de la maison. J'y crois comme je crois à ce qui nous a réunis, au plus profond de ta vie et de la mienne. Je te livrerai tout de moi-même. Maintenant, que ce soit ton plaisir de rire, de souiller, cela me laisse aussi loin qu'il est possible de la colère. Disperse, gâche, détruis, livre au chien tout ce que tu veux. Tu ne m'atteindras plus jamais. Je ne serai jamais là où tu crois me trouver, là où tu penses enfin me saisir. Un étranglement qui te fait jouir. Maintenant que grâce à moi, l'image la plus banale a pris forme de rêve, de désir, de drame, de passion, maintenant que seule l'hilarité la plus douce te délivrera de tout ce qui est pesant, tout sous la forme et l'aspect du plus précis, du plus combiné, du plus intéressé, du plus pauvre adultère. Pour moi qui suis au-delà des mots, j'ai trop vu, trop su, trop connu pour que l'apparence prenne forme, tu peux faire tout ce que tu veux, je n'aurai pas mal. Comment les tragiques sont des hypocrites, tu le sais bien. Comment ce drame a été monté, jour par jour, sous mes yeux méprisants, ou grâce à mes crises horribles qui ne relevaient que de la névrose. Tout ce que tu as vécu, je le sais tout, depuis plus d'un an avant, après la Sicile. Tout ce qui s'est cristallisé autour d'un être qui a pris forme de ton rêve. Un rêve brisant qui s'est brisé. Un rêve qui revient dans le plus banal des réalités quotidiennes que n'importe quel être humain est capable de vivre. L'adultère bien organisé, combiné, adroit, habile, brûlant parce que secret. Comprends-moi, rien ne peut m'atteindre de cet être. Je sais, la rue de Rennes, la glace qu'elle t'a obligé d'aller chercher, et devant laquelle, dès le premier jour, les jours de collège, je t'adore, je la voyais se bandiner le plus possible, sans même que tu prennes garde à son grand dépit. Elle peut tout ce qu'elle veut, sauf m'atteindre, qu'elle se sente pissée tant qu'elle voudra. Je voudrais vraiment que tu saches quelle libération, tout est retombé en poussière. Tu peux bien faire joujou avec mes objets, les lui mettre aux pieds, les dorer. Jamais ce qui vient d'elle ne m'atteindra. Jamais, entends-tu, elle ne touchera à ce qui est honteux. Je sais, c'est elle qui te plaît à en mourir maintenant, à en mourir de plaisir. Je sais parce que je sais tout ce que tu as vécu, tout ce que tu vis. Là-bas, tu lui donneras rendez-vous quand tu iras te promener, et que je resterai cloué là, si tu savais. Je viendrai t'aider à organiser ces rendez-vous. Je serai parfaitement calme et heureuse. Je t'indiquerai. Comme j'ai su la parée de l'auréole du crime qui te passionne. Cette malheureuse fille, qui ne voulait que se voir de tout. Elle a épié tous mes gestes pour les copier, écouté mes mots pour les répéter. Elle essaie de lire mes livres, elle s'efforce, elle s'essouffle tant qu'elle peut pour être ce que je suis. C'est si comique, n'est-ce pas, que je la plains de tout mon cœur. Je n'ai pas envie de me punir, de m'oublier au moment où j'ai besoin de me déprendre, d'être là au moment du rendez-vous dans la forêt ou dans une chambre louée à Saint-Germain ou à la gare Saint-Lazare. C'est avec une curiosité de pieuvre qui colle à tout qu'elle veut être au courant de tout ce que tu fais et dis, de tous tes projets pour s'y mêler, pour peser. Jamais plus tu n'oses te décider sans qu'elle se soit mêlée de tes projets. Est-il possible même de continuer ainsi? Sûrement pas. Pas de transaction dans l'intégrité, la plénitude, la vie. Il n'y a pas de transaction possible en moi. C'est clair. N'est-ce pas ainsi que je vis de nouveau en échappant au médiocre? À tout ce qui est les honteux, le faux semblant, le langage, bien, mal. Toujours ces mots-là à la bouche.
C'était Fragments de l'or. Aujourd'hui, un entretien de Jérôme Peignot et Michel Cohen, extrait lu par Florence Delay. Prochaine émission le mardi 22 février. Assistante de réalisation, Jacqueline Clancier.